Bonjour les auditeurs de Radio MDM, vous êtes dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire ». Alors aujourd'hui, nous allons démarrer une émission un petit peu particulière qui est consacrée à un troubadour de notre région, un troubadour du Marsan. Alors nous allons d'abord un petit peu présenter cet Arnaud Guillem de Marsan, qui est une figure malheureusement très peu connue aussi des Roquefortois, hein, comme des habitants du Marsan en général. Arnaud Guillem est un co-seigneur de Roquefort et de Montgaillard, il est seigneur de Cona. Alors attardons-nous un petit peu sur cette seigneurie de Roquefort. Il s'agit en réalité d'une co-seigneurie, c'est-à-dire d'une seigneurie tenue en indivision, sans doute depuis qu'il y a eu deux branches du lignage d'origine des Marsans, la branche aînée qui va donner les vicomtes et la branche cadette dont plusieurs seigneurs successifs s'appelleront Arnaud Guillaume. Il est tout à fait probable que Roquefort a été le siège initial de la famille et que là ont résidé les vicomtes et leurs cadets une partie de l'année et ce jusqu'à la fondation de Mont-de-Marsan en 1141. La co-seigneurie de Roquefort s'étendait sur de nombreuses paroisses qui sont aujourd'hui les communes autour de Roquefort que je vais vous citer. Il y avait là Lincouac, Bouriot-Bergonce, Biel-Soubiran, Saint-Gor, Bostens, Puy-de-Sault, Cachin, Sarbazan, Aru, Bélis, une partie de Saint-Justin, une partie de Luc-Bardès et Bargues. Donc à l'est, cette co-seigneurie était limitée par la vicomté de Gabardan et elle couvrait environ 7000 hectares, ce qui est quand même considérable. Alors nous ne connaissons pas la plupart des épouses des seigneurs de Roquefort, mais à en juger par les terres qui relèvent des Marsans au XIIe et XIIIe siècle, on peut penser quand même que les alliances de la famille se sont étendues à Montgaillard en Chalosse, à Cona et sans doute aussi en Bordelais, car autrement, on ne voit pas très bien par quel biais les Marsans auraient hérité de terres qui sont quand même déjà éloignées de leurs terres initiales. Il s'agit donc d'une famille puissante, qui est représentée notamment au XIIe siècle par ce chevalier troubadour. Jacques de Cona, historien qui lui a consacré un ouvrage autour de sa seule œuvre connue, qui est l'Encenamen, ouvrage passionnant, pense qu'il a pu naître vers 1125 à Roquefort, dans le château de Marsan, et qu'il est sans doute décédé entre 1181 et 1185. Il est donc co-seigneur de Roquefort avec le vicomte Pierre de Marsan, dont il est le petit cousin et le contemporain, et à partir de quelques actes qui permettent de connaître ses activités de seigneur, on peut affirmer qu'il joue un rôle notable à la cour d'Aquitaine. C'est ainsi qu'on le trouve aux côtés de Richard Cœur de Lion en 1177, lorsque ce dernier écrase la rébellion des vicomtes de Dax de Bayonne, accompagné du vicomte de Marsan Santul, rébellion au cours de laquelle le vicomte de Dax est tué sur les remparts de la ville et le vicomte de Marsan livré à Richard qui le fait jeter en prison. Arnaud Guillem a donc préféré la fidélité vassalique, c'est-à-dire la loyauté à son suzerain, à la loyauté familiale. Il est également témoin d'ailleurs de la charte de privilèges d'exemption de tout péage sur le territoire de Dax qui a été accordée par le même Richard Cœur de Lion aux habitants de la cité. De même, on le retrouve également comme témoin d'une donation à l'abbaye de la Sauve-Majeure par le vicomte de Béarn Pierre, son cousin. C'est donc un seigneur important par l'étendue de ses alliances. Alors parlons un petit peu des troubadours. Quelle différence entre les troubadours et les trouvères tout d'abord? Eh bien, la différence est une question de langue. On dit troubadour en langue d'oc, dans toutes les régions où la langue d'oc a été reine, c'est-à-dire le sud et le sud-ouest de la France, et on dit trouvère au nord de la Loire, c'est-à-dire les régions de langue d'oïle. Le terme troubadour comme le terme trouvère ont une origine commune étymologiquement. Ils ont donné d'ailleurs en français le verbe trouver, et c'est tout à fait le sens de troubadour et de trouvère. C'est celui ou celle, car il a existé également des femmes trouveresses, ou troubadouresses d'ailleurs. Et c'est celui qui trouve une mélodie, qui trouve une composition poétique, et qui va la chanter en s'accompagnant, ou il va la faire chanter. Nous avons donc des centaines de troubadours, dont la plupart aujourd'hui sont oubliés, ou dont l'œuvre s'est parfois perdue en partie ou totalement. Nous avons complètement perdu certaines de leurs œuvres. L'origine des troubadours, socialement, est très diverse. Certains viennent d'un milieu extrêmement humble ou pauvre. Ils ont pu être protégés par quelqu'un de plus puissant et très souvent, et ils ont appris leur art, généralement au contact d'autres troubadours, ou parfois dans des écoles, tout simplement. Les plus humbles, évidemment, allaient de cours en cours et dépendaient du Seigneur qui les accueillait, puisque c'était pour eux la seule façon de vivre. Ils vivaient à la cour d'un seigneur, ils distrayaient les nobles, hommes et femmes qui vivaient à cette cour, ils distrayaient le seigneur, et en échange, ils étaient hébergés et nourris. Mais il y a eu quelques troubadours seigneurs, parfois très importants. Le plus important d'entre eux, c'est le duc d'Aquitaine, Guillaume IX, le plus ancien troubadour connu à la fin du XIe siècle et au début du XIIe siècle. Alors quelques mots sur ce Guillaume IX qui a été un très grand duc d'Aquitaine et de Poitou, car en effet il a hérité de son père un territoire absolument immense qui comprenait le Poitou, la Gascogne, la région d'Angoulême, le Limousin, c'est-à-dire des territoires entre l'Anjou et les Pyrénées jusqu'au Massif central, le Massif central à l'Atlantique en particulier, c'est-à-dire que ses domaines étaient beaucoup plus étendus et importants que ceux du roi de France, Philippe Ier. Il a une personnalité extrêmement riche et exubérante, puisqu'il a composé de nombreuses œuvres. C'est un personnage à la fois libertin, joyeux, qui aime bien vivre, qui aime beaucoup les femmes d'ailleurs, qui s'est marié deux fois, mais surtout qui a eu de nombreuses liaisons en dehors de son mariage. Et voici ce qu'il répond, notamment au légat pontifical Girard, qui est l'évêque d'Angoulême, qui était entièrement chauve, et qui lui reproche ses liaisons dangereuses, notamment avec la vicomtesse de Châtellerault. Donc elle lui répond « Tu pourras peigner tes cheveux sur le front avant que je répudie la vicomtesse. » Et voilà, c'est donc une personnalité tout à fait hors du commun. Il a donc eu une influence importante. Peut-être qu'il y a eu avant lui des troubadours, mais nous n'en avons malheureusement pas de traces. Il va ouvrir la voie à d'autres troubadours qui vont fréquenter les différentes cours, Poitiers, Bordeaux notamment, Angoulême et d'autres. Au XIIe siècle, il y a eu quand même un certain nombre de femmes troubadours, hein, je tiens quand même à le préciser. Mais on n'a conservé que très peu d'œuvres de leur composition. L'une d'elles est Occitane. Elle a été à la fois comtesse et troubadour, c'est Béatrice de Die, épouse du comte de Poitiers. Et on connaît notamment d'elle un chant triste, « A chantar mer des sauts que no volria », composé pour un autre troubadour, Romain d'Orange, qu'elle aimait et qu'il avait trompé. Les troubadours composaient des pièces en vers en abordant de très nombreux sujets et ils s'accompagnaient évidemment en général d'un instrument de musique ou bien alors ils pouvaient, comme je l'ai dit, aussi faire jouer leurs pièces. En fait, les chevaliers troubadours, surtout à cette époque, sont des représentants d'un courant poétique et littéraire qu'on appelle l'amour courtois. En occitan, on dit « fin amor ». Il s'agit d'une relation amoureuse entre un homme et une femme, une dame, c'est-à-dire une domna en occitan, ce qui vient du latin « dominus », le seigneur, « domina ». L'homme va déclarer sa flamme au travers de chansons, en acceptant évidemment d'attendre le consentement de la dame. Et c'est toute cette attente qui constitue la trame de ces nombreuses chansons. Ces relations vont donc se dérouler dans le milieu d'une cour, la cour d'un grand seigneur, comme par exemple pour l'Aquitaine, d'abord celle de Poitiers, où s'épanouit la cour ducale, mais les troubadours vont également dans les cours de grands seigneurs vassaux du duc, comme par exemple les seigneurs de Ventadour, de Turenne, de Hautefort. On pense parfois que les rois-ducs, c'est-à-dire les Plantagenets, dynastie des ducs d'Aquitaine, rois d'Angleterre, ont beaucoup protégé les troubadours. En fait, ils ne s'y intéressaient pas beaucoup. C'est essentiellement Richard Cœur de Lion qui a été le principal protecteur des troubadours, en dehors de son frère Geoffroy, duc de Bretagne, mais qui est mort assez jeune. Et c'est donc pour cette raison qu'Arnaud Guillaume de Marsan fait partie des proches de Richard. À la fin du XIIe siècle, apparaît un genre nouveau de poèmes, les ensenamen ou enseignements, destinés à fournir des conseils, soit des conseils d'ordre moraux, soit des conseils de courtoisie. Et c'est donc dans ce dernier domaine que se situe l'ensenamen d'Arnaud Guillaume de Marsan, qui est un guide du savoir-vivre du parfait chevalier. Allez, il est temps de faire une petite pause musicale et comme j'ai évoqué Guillaume IX d'Aquitaine, je vous propose un extrait d'une de ses œuvres, Farai un vers post missonel, c'est-à-dire ferai un vers dans mon sommeil, mais je vous propose juste un extrait car l'œuvre est un petit peu plus longue que ne me laisserait ce volet de l'émission et elle est interprétée par l'ensemble spécialisé en musique médiévale, l'ensemble Feur Frueux Musique d'Augsbourg.
Thank you. Sarai un ver spos mi sole, vau che ne stau cal sole, dona sia de mal con sei, e sai dir cal. Ce las camor de ce valer, cor non Donna non fai peccat mortal, che amma ce vale le gau, ma sa mammon geo clergau, non arrai zo. Per tre gladi uria hom cremar, avunque zo. En alvernie parlemo così, men anni ai to sols a tapi, trovai la moglier den guari e den Bernard. Saluterò mis in flamens per sain claunar. La unam dicen son lati,
o Dios vos sols non peleri, monti semblots de velaisi,
Kai respondut, ac nolidis ni babibut, ni fer ni fus, no haimentagut, ma solaita. Babarioi, bababarioi, babaria.
Sorrins nani esan ermes,
Cambra e forne, sapciat cami fo bone bel, e fox fo vos, e diu cal fai me volenter, als gros carbos.
Il est temps maintenant, après ce petit intermède musical, de reprendre cette œuvre d'Arnaud Guillem de Marsan, co-seigneur de Roquefort et troubadour au service de Richard Cœur de Lion. Il est temps de reprendre donc le contenu de cette œuvre, dont je vais vous lire un passage de l'œuvre qui s'appelle L'Ensenamen. Je vais vous le lire en français, mais sachez qu'il existe en occitan ancien. Si quelqu'un est capable de bien comprendre un conte et veut l'apprendre, je vais vous en dire un qui peut en valoir beaucoup d'autres. Je sens bien que les autres ont du sens, mais voici celui qui a le plus de valeur, et il traite d'un sujet tel qu'il sera toujours utile. Nous étions en septembre, je m'en souviens parfaitement, quand je donnais l'ordre à deux jeunes gens à mon service de prendre deux faucons et à un troisième de prendre un autour, ainsi que les chiens et les lévriers. Il y avait aussi deux chevaliers, une bonne dizaine, je crois, montés sur des chevaux de prix. Ils voulaient se distraire et choisir et distinguer parmi nos faucons le meilleur et le plus vaillant, ainsi qu'éperonner nos chevaux pour voir quel serait le meilleur pour jouter. C'est ainsi que débute l'Ensenamen, écrit par un troubadour local, Arnaud Guillem de Marsan, qui n'est autre que le seigneur de Roquefort, cousin des vicomtes de Marsan, qui a joué un rôle actif dans l'entourage de Richard Cœur de Lion. Ce texte est hélas le seul de ce troubadour qui nous soit parvenu. C'est sans doute la raison pour laquelle il a parfois été oublié des spécialistes de la littérature médiévale jusqu'en 1939. L'Ensenamen, ou enseignement en français d'aujourd'hui, nous décrit la rencontre entre Arnaud Guillem et un chevalier qui vient le trouver dans son château afin d'obtenir de sa part des conseils destinés à séduire les dames. L'univers du troubadour, c'est l'univers du seigneur qui l'héberge. Et dans l'Ensenamen qui nous intéresse, cet univers est très bien décrit. Les nobles se distraient à la chasse, et c'est justement au moment de cette chasse que se situe le début de l'action et qu'arrive ce jeune chevalier inconnu dont je vous ai présenté tout à l'heure le portrait. Et d'après Jacques de Cona, Il est possible que ce jeune chevalier dont parle Arnaud Guilhem de Marsan soit tout simplement le jeune chevalier Richard Cœur de Lion. Arnaud Guilhem de Marsan est alors entouré de jeunes gens à son service qui s'occupent des faucons, d'une dizaine de chevaliers montés sur des chevaux de prix, accompagnés de chiens et de lévriers. Un petit peu plus loin, Arnaud Guilhem va commencer de prodiguer ses conseils au jeune seigneur qu'il a abordé et tous deux vont commencer d'abord par se rendre dans la grande salle du château où se situe l'action. Et là se trouvent de très nombreux nobles. De quel château s'agit-il ? Alors, on l'ignore, hein, on aimerait bien qu'il s'agisse du château de Marsan à Roquefort. Mais il était vraisemblablement trop petit pour accueillir une aussi grande foule, certainement pas un millier de chevaliers comme le dit Lensenamen. Et après un bon repas, une bonne nuit de sommeil, va commencer l'enseignement. Je vous en lis un extrait. Alors, nous commençâmes tous deux à participer à notre guise aux parties d'échecs et de tric-trac, aux chansons et aux récits. Il y avait là un millier de personnes qui ne se souciaient de rien d'autre. Nous y demeurâmes jusqu'au coucher du soleil, au moment où on nous invita à nous lever pour aller manger dans la grande salle où se trouvaient la plupart des gens. Quand nous eûmes mangé, comme son voyage l'avait fatigué, nous allâmes dormir, car c'était ce qu'il désirait. Nous avons dormi paisiblement jusqu'à l'aube du jour. Le prêtre nous fit dire alors de venir écouter la messe. Quand nous l'eûmes entendu et que le prêtre l'eut achevé, nous partîmes déjeuner, car on l'avait fait préparer. C'était Binaou, mon connétable, un homme d'une valeur éprouvée, qui s'y connaissait en nourriture. Pour moi, je me levai et emmenai mon ami, cet homme dont je vous parle. Nous quittâmes la salle ensemble et descendîmes l'escalier, lui et moi seulement. Il n'y avait que nous deux. Nous entrâmes dans un verger où je le fis asseoir face à moi à côté d'un laurier et je commençai à lui parler. C'est ainsi qu'Arnaud Guilhem de Marsan va commencer de prodiguer ses conseils au jeune homme qu'il a abordé. Le lieu est important. Ses conseils, en effet, ne doivent surtout pas se dévoiler en public pour ne pas gêner celui qui les demande, car celui qui les demande est en position de demandeur, donc d'infériorité. Ce n'est pas bien, ni pour l'un ni pour l'autre, que cela soit dévoilé en public. Aussi, ces deux compères se réfugient-ils dans un lieu intime, qui est le verger du château, où ils seront seuls. Pour le seigneur Troubadour, les trois qualités nécessaires pour être un parfait chevalier auprès des dames, c'est d'être toujours joyeux, d'avoir une bonne éducation et d'être audacieux. Lui-même dit d'ailleurs « J'ai appris cela quand j'étais jeune d'un maître S. Amour qui me l'a si bien enseigné que je n'ai jamais commis d'erreur en la matière. » Bon, il n'est peut-être pas très modeste, mais bon, nous allons voir la suite. Un parfait chevalier pour séduire les dames doit toujours avoir beaucoup d'esprit, donc un esprit brillant, avoir de la répartie, savoir danser hein, notamment, être aussi très généreux, être prêt à distribuer ses dons notamment aux troubadours et à défendre l'honneur des dames. Bien entendu, un seigneur accompli doit toujours ouvrir sa porte à tout le monde, y compris bien sûr aux troubadours, et il doit toujours être de bonne humeur, toujours aimable, être propre, avoir de beaux vêtements et généreux. Tel est le portrait idéal du seigneur que brosse Arnaud Guilhem de Marsan dans son enseignement pour être un parfait chevalier. Je vais m'arrêter là, mais si vous souhaitez mieux connaître l'œuvre d'Arnaud Guilhem de Marsan, il faut que vous lisiez l'ouvrage qui lui a été consacré par son lointain descendant Jacques de Cona, dont vous trouverez les références sur Internet et qu'il vous adressera volontiers. Je termine cette émission qui est centrée donc sur Arnaud Guilhem de Marsan, troubadour et poète et seigneur de Roquefort. Je vais donc vous proposer un chant composé par Richard Cœur de Lion, duc d'Aquitaine et roi d'Angleterre. Chant composé dans des circonstances bien particulières. En 1189, Richard Cœur de Lion se joint à Philippe Auguste pour lancer la troisième croisade vers le Moyen-Orient et Jérusalem. Alors qu'il revenait vers l'Angleterre en étant déguisé en marchand pour éviter de se faire arrêter, eh bien, il est précisément reconnu et le duc Léopold de Babenberg va le capturer. Il le remet ensuite à l'empereur d'Allemagne, Henri VI, qui va le faire emprisonner contre une rançon énorme. Une rançon de 150 000 marques d'argent, c'est-à-dire l'équivalent de 2 ans de recettes du royaume d'Angleterre. Il est resté en prison entre le 19 décembre 1192 et le 4 février 1194. Il était emprisonné dans de bonnes conditions, car, attention, c'est un roi. On ne va pas le jeter au fond d'un cachot comme un vulgaire prisonnier. Il a donc été traité avec égard. Mais il a fallu attendre le premier versement de 100 000 marques d'argent, donc le 4 février 1194, pour qu'enfin Richard Cœur de Lion soit libéré. Durant sa captivité, le roi Troubadour a composé un chant que je vais vous présenter maintenant et dont les paroles sont tout à fait claires. Elles disent effectivement quel est son état d'esprit. Le titre en vieux français, car Richard Cœur de Lion parlait français, vieux français, beaucoup plus que anglais. Le titre c'est donc « J'annonce un esprit ne dira sa raison ». C'est-à-dire, jamais nul prisonnier ne tiendra de propos de façon véridique. Alors voici les premières strophes de cette chanson qui sera ensuite interprétée lors d'un concert en live du 4 janvier 2020, le concert Génération France Musique, avec la voix du baryton Marc Moyon et à la cornemuse Pierre Hamon. Voici donc les premières strophes. Jamais nul prisonnier ne tiendra de propos de façon véridique, si ce n'est de façon attristée. Mais il peut faire un effort pour composer une chanson. J'ai beaucoup d'amis, mais pauvres sont les dons. Honte à eux si pour réunir la rançon je reste ici prisonnier deux hivers. Ils le savent bien, mes hommes et barons anglais, normands, poitevins et gascons, que je n'ai nul compagnon, si pauvre soit-il, que je laisserais en prison sans rien faire. Je ne dis pas cela par reproche, mais je suis encore prisonnier. Maintenant, je sais de façon sûre et certaine que ni mort ni prisonnier n'a d'amis ni de parents quand on me fait défaut pour verser de l'or et de l'argent. Ce sera beaucoup de ma faute, mais plus encore celle de ma gent à qui on pourra faire reproche après ma mort si je reste longtemps prisonnier. Je m'arrête là et je laisse maintenant la place à la musique.
Ne dira sa raison adroitement, c'est dolentement non. Mais par effort peut-il faire chanson. Mot et amis, mes pauvres sont les dons. On t'y avance pour marrer un son. Suis ça deux hivers pris. Se sève bien, mi homme et mi baron, Inglouès, Normans, Poitevin et Gascon, que je n'ai nul si pauvre compagnon, que je laissesse pour avoir en prison. Je nous dis mille pour nulle retraçon, car encore suis pris. Or sais-je bien devoir certainement que je ne prisse ni ami ni parent quand on me faute pour or ni pour argent. Mot mais de moi, mais plus mais de ma chance qu'après ma mort avront reprochement ce longuement suit pris. N'est pas merveille si j'ai le cœur doulant, quand mes cires met ma terre en tourmente, si les mêmes bras de notre souhaitement, que nous feuillîmes enduits comme une aimante, je sais le voir que j'ai trop longuement, ne serait-ce sa prise. Se sève bien, ange vétouré, s'il bâche l'air qui or sont riches et sains,
Quand combré suis loin de un autre mais forme mes deux, mais il n'en y gré. De belles armes sont en revuit et plaît pour ce que je suis prise. Mes compagnons que j'amouais et que j'aime, ceux de Caen et ceux de Percheret, dit leur chanson qu'ils ne sont pas certains. Conquérants, ne ouais, fausse cœur n'est fait. S'ils me guerouaient, ils feront que vilain, tant qu'on je serai pris. Comtesse sœur, votre prix souverain, vos saut égards si à qui je m'acclais, et pour ce suis-je prise. Je ne dis mieux à celle de Chartres, la mère.